l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, qui reçoit une fois par mois l'association Eau et Rivières de Bretagne. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet qu'on a abordé récemment, le contrat de rade. Il s'agit bien sûr de la rade de Brest. On l'a déjà rencontré avec les deux établissements qui gèrent les deux bassins versants qui alimentent la rade, celui de l'Aulne, géré donc par les PAGA, et celui de l'Élorne avec le syndicat de bassin. Nous avons reçu deux élus qui nous ont donné leur point de vue. Ils ont souligné l'importance de cette nouvelle assemblée générale de l'eau, un peu comme celles qui se réunissent autour des bassins versants justement. Sauf que là, les personnes qui vont discuter, négocier, agir ensemble auront pour objectif d'améliorer la qualité de l'eau de la rade de Brest. Des collectivités et leurs populations, des entreprises, qu'elles soient industrielles, agricoles, de pêche, de services, comme le tourisme, sans oublier les établissements et les organismes publics. Il s'agira de les inciter à s'engager dans des actions concrètes pour améliorer la qualité de l'eau. La construction du plan d'action détaillé devrait durer toute l'année 2023, le temps que toutes les parties prenantes s'accordent. Les actions devraient commencer en 2024. Donc c'est un sujet qui bien sûr intéresse aussi les protecteurs des eaux douces, puisque les rivières se jettent dans la mer. Donc Eau et Rivières de Bretagne est avec nous aujourd'hui, en la personne d'une de ses bénévoles chevronnées, Annick Postelec. Bonjour.
Bonjour.
Et peut-être le vice-président Jean-Yves Piriou qui nous rejoindra en cours d'émission. Ce contrat de rade, donc, c'est quand même nouveau hein, comme outil, mais est-ce que les associations étaient explicitement impliqué dedans dès le départ, comme Eau et Rivières?
Je répondrai surtout sous mon angle de bénévole, parce que je ne connais pas aussi non plus tous les détails des implications. Je sais que notre vice-président Jean-Yves Piriou est membre du comité de pilotage de ce contrat de rade, mais mon vécu personnel, c'est qu'au niveau de la préparation, on a été invité à participer aux ateliers de construction de ce contrat, mais c'est d'une certaine façon une participation à la marge. Ces ateliers me semblent aussi formels. J'exagère
comment
peut-être.
Comment ça se passait concrètement, un atelier?
Un peu pour dire, on a coché la case consultation de la population. Mon ressenti personnel.
Mais vous étiez nombreux, enfin.
On était très nombreux. L'intérêt, c'est d'avoir les informations, les données de l'état de la rade, les documents, de voir tous les acteurs. Et c'est vrai qu'il y avait de nombreux acteurs différents, professionnels, associations, collectivités, etc. Et de voir l'intérêt fort de nombreux participants pour que les choses soient mise en œuvre concrètement et fortement. Donc, il y a cet intérêt-là de voir et puis d'entendre les différentes opinions des différents participants.
C'est pas fini d'ailleurs ces ateliers, il y en aura encore peut-être, non?
Il me semble que maintenant, le projet de contrat de rade va être présenté et qu'ensuite, les responsables du côté des syndicats de bassin et des collectivités vont le mettre au point. Les ateliers, je pense, sont terminés.
Vous, en tout cas, vous n'irez plus dans un atelier pour l'instant. Enfin, vous n'avez pas d'atelier dans votre agenda.
Je n'ai pas l'information. Et bon, les ateliers, c'est intéressant d'y participer, mais bien sûr, c'est de la caricature, mais ça prend parfois la forme d'atelier gommette, hein, dont on retire, et puis très rapide et très superficiel, dont on peut se poser la question de l'effet que ça a et de l'intérêt que ça a.
Ouais, c'est on prend un peu la température et puis après on verra quoi.
Oui, en espérant qu'il en sera tenu compte.
Et vous étiez plusieurs d'Eau et Rivières à participer à ces ateliers ou
nous étions deux à trois selon l'atelier.
Mmh, d'accord, il y avait plusieurs ateliers quand même. Ouais.
Tout à fait. Oui. Oui, il y en a eu trois.
D'accord, très bien. Donc, quand même, vous étiez là en amont. Le comité de pilotage, bon, c'est pareil, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui participent à ce comité de pilotage, je suppose.
Oui.
Mais bon, il y a au moins les associations comme Eau et Rivières. Il y en a d'autres, sans doute, des associations
Tout à fait. Je ne connais pas le détail pour ce comité-là, mais les associations sont partenaires, oui.
Bon, et en fait, les personnes qui sont dans le comité de pilotage vont suivre le contrat de rade jusqu'à la fin.
Oui, tout à fait.
Bon, au moins, il y aura ça. Alors, évidemment, le problème, c'est que nous, on voudrait savoir quelles sont les priorités, parce que quand on dit qualité de l'eau de la rade de Brest, c'est quoi les problèmes de qualité de l'eau de la rade de Brest, du point de vue d'Eau et Rivière en tout cas?
Oui, pour Eau et Rivière qui se consacre principalement à l'eau et à l'environnement auquel l'eau est liée, la rade de Brest, et pour tout le monde, la rade de Brest est un endroit qui concentre justement de nombreuses pollutions et de nombreux problèmes, puisqu'elle est réceptacle des bassins versants, des assainissements, des pratiques agricoles, des pratiques professionnelles, de l'urbanisme, de tout ce qui est autour. Donc il y a une concentration énorme, et puis une...
C'est lié à sa géographie, enfin, je veux dire, c'est parce qu'elle n'est pas très très grande et assez fermée aussi?
Oui, ou... oui, tout à fait. C'est une rade relativement fermée, en fait, où les pollutions existent depuis longtemps. Les dépôts de matières organiques font qu'elles retiennent ces pollutions, justement, dans le fond de la rade. Il n'y a pas assez de courant, pas assez de...
C'est trop vaseux, en fait, c'est ça?
Oui, et puis c'est pas assez l'objet du nettoyage des courants, comme dans d'autres sites.
C'est pas assez brassé, quoi.
Pas assez brassé, ouais. Voilà le mot.
Et en plus, est-ce qu'il y a, enfin là, je ne sais pas, c'est par rapport à d'autres rades ou d'autres baies, est-ce qu'il y a particulièrement beaucoup de rivières qui l'alimentent?
Bon, principalement, bien sûr, les Lornes et l'Aulne, et toutes les rivières annexes de ces rivières-là, ou la rivière du Foul, et puis le Canfrout à l'hôpital Canfrout, toutes les petites rivières. Donc, mis bout à bout, c'est quand même un réceptacle important, comme il vous était dit lors de l'intervention des élus. La surface concernée par ces bassins versants est relativement importante.
Et la population, 350 000 habitants.
Tout à fait, dont 60% en métropole brestoise.
Avec des activités peut-être spécifiques par rapport à d'autres baies. Enfin, là, je ne sais pas, on en a parlé un peu, mais en gros, quelles sont les activités qui génèrent le plus de pollution, pose le plus de problèmes, et pourquoi?
Je pense que c'est tout mis bout à bout. Je ne suis pas assez pointue pour donner le détail de ce qui est plus important ou plus problématique, mais c'est un tout mis bout à bout, puisque justement c'est un réceptacle de multiples pollutions et que c'est ancien. Donc on met souvent en cause ou on parle de pollutions anciennes comme celle des mines de plomb argentifère, mais il ne faut pas oublier que si là on ne peut rien faire, il est plus que temps de faire quelque chose au niveau des pollutions contemporaines. Et on sait qu'il y a quand même eu un premier contrat de rade qui n'a pas eu de résultats suffisamment importants. Donc, c'est bien la preuve qu'il faut aller plus loin, plus fort, à mon sens.
Oui, c'est un contrat. Alors, il s'appelait contrat de baie, en l'occurrence. Oui. Il a quand même eu des résultats. Enfin, c'était quoi les résultats, en gros?
Là aussi, ma position de simple bénévole adhérente et puis intéressée, mais pas assez, peut-être pas assez informée, ou qui ne va pas assez chercher l'information, chacun y verra ce qu'il veut, fait que j'aurais du mal à répondre, mais je pense qu'il y a une prise en compte multiple et à tous les niveaux qu'il est temps de faire. On voit ça, on a l'expérience par exemple des effets du changement climatique l'été dernier sur les problèmes d'eau potable, les pénuries, la baisse des nappes phréatiques, les incendies de forêt liés aux pratiques agricoles qui ont été abandonnées aux pratiques globalement professionnelles et de chacun, des particuliers aussi, liés à l'économie et aux économies qu'on nous présente comme le premier critère qu'on prendrait en compte. Mais à mon sens, il faut voir que l'environnement est à mettre en première place.
Mmh. Alors en matière de qualité de l'eau, la rade de Brest, quand vous avez participé à ces ateliers de concertation, c'était un peu pour faire le diagnostic, hein, je crois.
Oui.
Que disaient les autres participants?
Eh bien, chacun de son côté parlait des problèmes qu'il rencontrait. Bien sûr, les professionnels, il en a déjà été question, parlaient des problèmes et des pêches d'huîtres, de coquilles Saint-Jacques, de pétoncles, de toutes les baisses qui ont eu lieu.
Oui, il y a pratiquement plus de pêche à la coquille, par exemple, en rade de Brest.
Tout à fait. Mais c'est déjà depuis les années 60. Je suis aussi membre pour Eau et Rivière du Copil Natura 2000 de la rade de Brest-Aulne.
Et ça consiste en quoi? Enfin,
C'est quelque chose d'intéressant. À mon sens, ces zones Natura 2000 sont des zones où on met une protection plus forte et où on identifie des fragilités et aussi des richesses à préserver. Donc, on a déjà des structures qui existent et auxquelles on devrait et on pourrait donner des moyens pour qu'elles aillent plus loin, plus fort dans la protection et qu'elles puissent montrer quelles actions ont des effets.
Il y en a par exemple en presqu'île de Crozon. Enfin, est-ce qu'il y en a tout autour de la rade? Non, c'est non, pas tout le littoral de la rade qui est protégé en
Non, il y a le fond, ce sont des zones précises qui, au titre des habitats ou des protections des oiseaux sont identifiés. Il y a aussi une zone Natura 2000 sur les Lornes et puis il y en a d'autres, mais ce sont des zones bien précises et ponctuelles par rapport à la surface globale.
Donc ce que dit Eau et Rivière de Bretagne, c'est que c'est pas forcément besoin de, il y a pas forcément besoin de réinventer l'eau chaude, mais que déjà avec les outils qu'on a, en améliorant les financements de ces outils, on pourrait améliorer grandement la qualité de l'eau.
Tout à fait, et on a déjà de nombreuses réponses possibles et connues aux problèmes qui se posent. On voit au niveau des pratiques agricoles que des pratiques qui relèvent, par exemple, le modèle de l'agriculture biologique peut être repris pour mettre en œuvre de meilleures pratiques. Je voyais que dans le plan de lutte contre les algues vertes qui concerne 8 rades, mais justement pas la rade de Brest, alors qu'il y a des algues vertes, et ce brassage qui n'est pas fait par les courants fait qu'elles y restent, et le peu de profondeur de la rade fait aussi que le problème est de plus en plus important. Je suis aussi bénévole depuis 2014 pour les comptages de pêcheurs à pied en rade de Brest, et on a vu qu'au niveau sanitaire de qualité des eaux de la rade, on voit que de plus en plus de problèmes se présentent et se posent.
Des toxines en fait qui rendent les coquilles
Tout à fait. Donc tout ça lié, et puis les toxines et tout le reste, il y a aussi la présence d'azote, et donc la nourriture des toxines, des micro-algues toxiques qui est de plus en plus présente et qui donc nourrit de plus en plus ces micro-algues.
Donc c'est de l'azote essentiellement d'origine agricole
C'est ce qui se dit, oui. Mmh. Oui.
Mais c'est vérifié ou pas?
Ah oui,
scientifiquement.
C'est vérifié. Oui, bien sûr.
Oui. Et donc, est-ce qu'il y avait d'ailleurs des agriculteurs qui étaient présents à ces ateliers de concertation?
Oui, tout à fait.
Et de quel profil? Enfin,
lors du deuxième atelier auquel j'ai participé, en fait, nous étions regroupés séparément selon nos catégories, usagers de la rade, associatifs et touristiques d'un côté, les professionnels agriculteurs de l'autre, et pêcheurs sans doute.
Oui, et puis même les éleveurs de coquillages aussi.
Voilà, tout à fait. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, nous n'avons eu que dans le compte rendu écho de leurs attentes, mais... lors du troisième atelier, nous étions mélangés dans les groupes. Mais comme je disais tout à l'heure, ça se passait rapidement. Et puis,
il n'y avait pas vraiment de débat entre vous,
de façon
en fait.
Superficielle. Pas un vrai débat, non, et pas assez de temps, pas de discussion. On peut pas en une demi-heure se retrouver assis à côté de personne et devoir vite donner des avis et puis un compte rendu.
Et dans les autres instances auxquelles vous participez éventuellement, si c'est le cas, là, il y a peut-être plus de temps pour discuter sur ces questions, non? Pas forcément.
Au niveau du bénévolat, on peut participer à des réunions, par exemple sur la zone Natura 2000, au niveau de la pêche à pied, du projet l'AF Mara. On peut participer et on voit l'évolution et on voit ce qui est fait. Et c'est l'intérêt d'ailleurs dans ces zones Natura 2000 de voir que quand on a une chargée de mission et quand on a des personnes chargées de mettre en œuvre des actions...
Donc des salariés.
Tout à fait. Mmh. Elles regroupent aussi elles mettent ensemble des structures différentes qui travaillent ensemble dans le même objectif. C'est le grand intérêt de ces structures-là et de montrer ce qu'il est possible de faire. Mais on peut aussi se dire que, bien sûr, c'est un peu une vitrine de ce que l'on peut faire, mais derrière la vitrine, quelle est la généralisation de ces actions?
Oui, c'est ça. Vous arrivez, vous, aux Rivières de Bretagne, à travailler avec les agriculteurs, par exemple, mais voilà, vous aimeriez que ça soit un mouvement général, en fait, c'est
ça? Tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait.
Donc vous, quand vous êtes bénévole sur le terrain, vous occupez de quelle rivière en particulier,
Postelec? Personnellement, c'est autour de la Rade de Brest.
Donc plusieurs rivières, en fait.
Le bénévolat, les actions que j'ai faites, c'est plutôt la partie Rade de Brest et pas la partie rivière.
Ah oui, d'accord. Donc vraiment, oui, Rivière de Bretagne s'occupe aussi d'un milieu maritime salé, d'eau salée, en fait, c'est ça?
Oui, dans la mesure où des actions sont proposées. Et puis, c'est aussi une intervention personnelle. Dans la mesure où j'habite en bordure de Rade et que je suis à proximité, je peux plus facilement m'intéresser à ce qui se passe et m'investir là-dedans.
Dans les problèmes identifiés de la Rade de Brest, on n'a pas parlé, je crois, des questions d'assainissement. Est-ce que oui. Vous avez un mot à dire là-dessus?
Ouais. Il est certain qu'il y a beaucoup de problèmes d'assainissement qui se posent. On sait que déjà au niveau de l'eau potable, on nous dit qu'il y a beaucoup de fuites dans les réseaux et qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Du coup, on peut se poser la question, et qu'en est-il des fuites au niveau des réseaux d'évacuation des eaux d'assainissement?
Usées, ouais.
Des eaux usées. Si le problème est si fort au niveau de l'eau potable, je ne pense pas qu'il soit moins important au niveau des eaux usées. On sait que l'assainissement non collectif pose d'énormes problèmes aussi. Donc, il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. On sait que dès qu'il y a l'artificialisation des sols s'ajoute à ça, et dès qu'il y a des pluies importantes, en étant bénévole pêche à pied, justement, je voyais ça, dès qu'il y a des pluies importantes, on voyait qu'il y avait des résultats sur la Rade de Brest au niveau des zones de pêche à pied.
Ah oui, qu'est-ce qui se passe
très rapidement.
Ouais, qu'est-ce qui se passe concrètement?
C'est arrivé, bon, petit souvenir peut-être anecdotique, mais je faisais un comptage sur la partie Keraliou de Plougastel.
Qu'est-ce que vous comptiez?
Et les pêcheurs à pied.
Ah oui, d'accord. Pas les coquillages quand même, non. Parce que ce serait un petit peu beaucoup de boulot.
Et donc à ce niveau-là, les pêcheurs à pied interrogés disaient, oui, on a entendu dire que hier il y a eu une pluie importante à Plouzané et que du coup, l'effet sur la Rade de Brest se fait sentir aujourd'hui.
Donc c'est quoi? C'est l'eau qui ruisselle un sol artificialisé, donc,
oui.
C'est-à-dire soit carrément bétonné, soit des champs mais qui sont cultivés, dont le sol n'est pas couvert végétal, enfin n'est pas bien couvert, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et ça amène, qu'est-ce que ça fait? Ça amène des polluants?
Ça amène des matières organiques qui transportent, qui contiennent toutes sortes de matières qui sont déposées sur le sol. Et qu'elles entraînent plus rapidement dans l'eau. Et tout à l'heure, je parlais.
Et quand il y a trop de matière comme ça dans l'eau, de sédiments, qu'est-ce qui se passe pour les coquillages, pour les pêcheurs à pied, c'est quoi la conséquence?
En fait, il y a plus de dépôts de matières problématiques et de. Les mesures sanitaires de l'eau amènent à dire qu'il faut éviter la pêche à pied.
Ah oui, donc c'est des toxines qui sont amenées, en fait, c'est ça? Enfin, c'est pas tout à fait ça.
C'est vraiment...
Des polluants divers, quoi.
Voilà.
Ah oui, donc, mais combien de temps après une grosse pluie à Plouzané, il y a un effet sur la rade?
Dans le cas dont je vous parle, c'était le lendemain matin. Et c'est intéressant de voir que les pêcheurs à pied qui sont pratiquants réguliers, avaient déjà cette information-là et s'étaient informés pour savoir où en était la pêche à pied sur leur secteur.
Ouais. Donc, ce sont des professionnels, semi-professionnels? Enfin, comment
là,
ça se passe?
Là, simplement des amateurs.
Ah oui, d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des pêcheurs à pied professionnels en Rade de Brest, en fait? Peut-être pas, oui.
Je ne peux pas, je ne sais pas.
Vous n'en connaissez pas, en tout cas, vous? Dans ceux que vous recensez, ils sont tous...
Personnellement, je n'ai pas l'information.
D'accord. Et sinon, donc, d'autres problèmes?
Et sinon, tout à l'heure, quand on parlait de l'écoulement des eaux, je commençais à parler du plan de lutte contre les algues vertes. Je voyais que dans ce cadre-là, par exemple, et seulement dans ce cadre-là, on rendait obligatoires les mesures qui évitaient l'écoulement de l'eau à la sortie des champs du fait du travail des tracteurs en hiver. On voit qu'en sortant des champs, les tracteurs laissent des ornières, et on voit ensuite que l'eau qui s'écoule, s'écoule plus fortement par ces ornières. Là.
Oui, ça fait comme des petits fossés, quoi.
Et donc, il y a des mesures toutes simples du style travailler le sol en sens inverse de la sortie des champs.
Oui, déjà.
Et ça n'est obligatoire que dans les zones de plan de lutte contre les algues vertes. Et puis, chose peut-être plus importante, on voit encore qu'il y a beaucoup de destruction des zones humides, et les zones humides et les bocages et les
talus. Encore maintenant ?
Ah oui, oui, oui.
Ah oui.
Petit secteur par petit secteur, il y a un grignotage important qui se fait. Je dis ça parce que je l'ai vécu dans le secteur que j'habite, il y a 3-4 ans. Les petits champs qui n'étaient plus cultivés, 3-4 ont été... tous les talus ont été éliminés.
En plus, c'est interdit de détruire des talus.
Il y a des limites de surface qui rendent les choses possibles.
Ah ouais, on peut passer entre les mailles.
Tout à fait. D'accord. Donc là, ça a été fait. Les petits ruisseaux ont été... on a mis des drains. Et c'est l'exemple même de champs qui sont devenus des champs de maïs et où je voyais justement les eaux en hiver s'écouler sur la route et dans le fossé à plus forte...
Et puis une eau qui s'écoule sur la route récolte aussi des polluants, des traces de gazole, des choses comme ça, c'est ça.
Éventuellement.
Quels sont les polluants qui sont identifiés dans la, qui sont mesurés régulièrement dans la rade de Brest, à votre connaissance ?
Donc il y a tous les polluants d'origine agricole, d'origine humaine aussi. Il y a aussi les résidus médicamenteux. Lors de ces ateliers, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Et là, je me suis dit, tiens, c'est donc important. Les résidus médicamenteux, les résidus des traitements médicamenteux. Alors, est-ce que c'est lié au traitement des animaux ou des hommes.
Oui, on ne sait pas si c'est des médicaments pour humains ou pour animaux.
Ouais. Mais il y a aussi les résidus des produits contraceptifs, par exemple.
Oui, donc ça c'est pas traité en fait par les
coquillages.
Ça change leur régime hormonal. Enfin, ça atteint les hormones. Ah bon, d'accord. Et ça, ces médicaments-là ne peuvent pas être traités par les stations d'épuration. Mal, en tout cas, visiblement.
Ça représente aussi, plus le traitement est important, plus le traitement est poussé, plus il y a de dépenses, et c'est souvent une limite. On a vu qu'il y a eu des pollutions agricoles dont on parle maintenant, des produits comme le S-métolachlore, donc des produits qui servaient à traiter le maïs normalement au printemps et qui n'étaient plus présents ensuite, mais on s'est rendu compte qu'ils sont rémanents. Non, ils n'étaient pas interdits. Ils étaient autorisés, et dans la mesure où on disait que c'était au printemps et qu'ils ne seraient plus présents plus tard. Donc là, on s'est rendu compte qu'ils sont rémanents, en fait, qu'ils restent dans le sol, et qu'on a atteint des niveaux de pollution de l'eau de l'eau potable et de présence. C'est pas de pollution, c'est de présence dans l'eau potable qui sont plus importantes que ce à quoi on s'attendait. Mais en fait, pour éliminer cette présence, il faut des filtres très onéreux. Donc,
tout ça se retrouve dans nos impôts, au final.
Voilà, tout à fait. Et puis, il y a un temps de réaction et de mise en œuvre des solutions. En fait, c'est plutôt la protection des... Il y a des réponses aussi rapides du style de la protection des zones de captage et des zones de bassins versants.
À ce niveau-là, les protections des zones de captage, c'est comment dans nos bassins versants, du point de vue d'eau et rivière de Bretagne, ça se passe plutôt bien
Je pense que c'est très variable selon les collectivités aussi. Donc, il faut pas non plus. Il y a sûrement des choses bien qui se passent et des choses moins bien. Les collectivités, dans la mesure du possible, font en sorte qu'il n'y ait des pratiques agricoles non polluantes dans ces zones de captage. Par exemple, couper l'herbe pour du foin pour les animaux des pratiques qui ne nécessitent pas l'épandage
du pâturage,
de pesticides et de produits de traitement.
D'accord. Si c'est le pâturage, si c'est le bétail au pré, ça pollue pas, enfin ça protège le captage, quoi. Enfin, il ne faut pas que les vaches aillent faire leur bouse dans la rivière.
La mesure où on leur a mis de l'eau à disposition et qu'elle n'aille pas dans les ruisseaux, oui.
Qu'est-ce que vous allez préconiser comme action à Eau et Rivière de Bretagne dans ce contrat de rade, si vous le savez en tout cas?
Pour l'instant, le contrat de rade étant en cours d'élaboration, il est difficile de pouvoir dire on souhaite avoir telle et telle action à tel et tel niveau, puisqu'on ne connaît pas le détail des mesures qui seront prises.
Ah oui, c'est pas vous qui pouvez préconiser les actions auprès des collectivités?
Non, ce sont les collectivités et les professionnels. Apparemment, il est question d'y avoir peut-être plus que précédemment solliciter les scientifiques, puisque...
Oui, ils y sont, voilà, ça c'est nouveau.
Tout à fait, ouais. Parce que il faut... c'est vrai qu'au niveau de la rade de Brest et sur le pays de Brest, il y a énormément de scientifiques qui s'intéressent à la mer, à la rade, à la qualité de l'eau.
Oui, il y a beaucoup de recherches là-dessus,
voilà,
en effet.
Donc
ouais.
Ce serait dommage de ne pas profiter de leurs recherches.
Oui, c'est ça. Et donc, en fait, d'après vous, pour que ce contrat de rade réussisse cette fois, qu'est-ce qu'il faudrait, en gros?
Moi, je pense qu'il faudrait des actions vraiment très fortes, et puis des réactions très fortes des élus, des partenaires. Je pense qu'il faudrait aussi responsabiliser les territoires, et puis rendre visibles les choses. Parce qu'en fait, à tous les niveaux, me semble-t-il personnellement, c'est un avis personnel plutôt qu'un avis d'association, que j'exprime là, les choses ne sont pas rendues assez suffisamment visibles pour qu'on prenne conscience des niveaux de pollution sur nos propres territoires. Je prendrai comme exemple un exemple positif. On a dit qu'on ne pouvait pas créer de nouveaux lotissements, de nouvelles constructions dans certaines communes, dans la mesure où les systèmes d'assainissement n'étaient pas aux normes, mais c'était seulement quand les systèmes d'assainissement étaient aux normes qu'on autorisait ces nouvelles constructions. Et à mon sens, on pourrait faire la même chose au niveau de toutes les activités d'un territoire. Mm-hmm. Si un territoire a un impact trop négatif sur la pollution de l'eau, et puis à côté de cette pollution, il faut voir l'effet sur la biodiversité, bien sûr, ne pas l'oublier. Si un territoire a globalement un impact trop négatif, pourquoi ne pas dire on ne peut pas y installer des activités polluantes. Et il faudrait aussi justement ne pas diaboliser toutes ces actions positives, parce que je pense aussi qu'on diabolise trop, qu'on rend trop négatif tout ce qui est contrainte, alors que c'est aussi une façon de préserver notre environnement, notre eau, pour les activités professionnelles futures et pour la vie future.
Et pour la santé, tout simplement. Très bien, Annick Bostolek, merci beaucoup. Je vais rappeler que de toute façon, le grand public est aussi invité à en savoir plus, au moins à participer. Le 14 décembre, il y a une conférence de restitution du fameux diagnostic à 20h. Ce sera à Océanopolis, à Brest, et aussi en direct sur grand écran au lycée de l'Aulne, à Châteaulin, et sur YouTube également. Merci.